Donc, il y aura la possibilité d'ajouter d'autres sous-secteurs si votre projet n'appartient pas à ces sous-secteurs. Diapositive suivante. Donc, cette image qui récapitule les cinq étapes. Oui, on a déjà vu ça sur la diapositive d'avant, mais avec beaucoup plus de clarification. Donc, c'est les cinq étapes qui commencent par l'étape 1, c'est-à-dire la soumission du projet au niveau du site web, comme nous le voyons ici. Le site web de PIDA Paptu, je crois qu'il y a déjà un email qui a été envoyé par Krishna pour que tout le monde soit inscrit au niveau de ces suites pour pouvoir soumettre les projets. Ensuite, les étapes 2 qui consistent à l'application de l'éligibilité critéria, parce qu'il y a deux sortes de critères qu'on va voir après. Donc, la première critère sur la critère d'éligibilité du projet. Donc, si le projet est éligible ou pas, si le projet peut passer ou pas. Donc, après ça, on va passer à d'autres critères, qui est le critère une longue liste de critères, c'est l'étape 3, et puis appliquer pour avoir la liste des projets admis draft pour les PIDA-PAPTU. Et ces projets maintenant vont être évalués pendant les Continental Workshop qui aura lieu après les étapes 3, après les étapes 3. Et à la fin, ces projets maintenant qui vont être présentés, le projet PIDA-PAPTU final sélectionné après l'étape 4, sera présenté à l'African Union, le sommet de l'African Union. Avec les États membres, les chefs d'État, le janvier 2021. Diapositive suivante. Voilà les deux séries de critères que j'avais mentionnés, donc les critères d'éligibilité et les critères de sélection. En parlant des critères d'éligibilité, ils sont basés sur deux critères. Donc, d'abord, les projets doivent être régionaux, c'est-à-dire transnational ou projet national, et un impact régional. C'est-à-dire au moins deux pays concernés ou bien plus de deux pays concernés. Mais c'est possible aussi d'avoir un projet, mais ce projet a un impact sur les différents pays. Donc un projet qui concerne un seul pays, mais les impacts de ce projet peuvent concerner d'autres pays. Donc ça aussi, c'est possible. Et deuxième point dans ces critères d'éligibilité, il est obligé d'avoir l'objet d'un accord clair entre les pays concernés. Donc cet accord clair doit être sous forme d'écrit. Peut-être c'est les agreements entre les deux pays ou bien une lettre qui prouve qu'il y a une entente entre les deux pays ou les trois pays concernés. Donc c'est ça les critères d'éligibilité. Donc, si votre projet répond à cette éligibilité, cela veut dire que votre projet va passer à l'étape suivante, qui est le critère de sélection. Donc, votre projet sera soumis à l'évaluation pour les huit critères de sélection. Diapositive suivante. Donc, les huit critères de sélection se présentent comme suit. D'abord, il y a les critères des corridors. Qui est le premier critère, c'est-à-dire le projet doit être en synergie avec une autre infrastructure qui existe. Ensuite, les critères d'emploi. Ça, c'est un critère qui va voir que si le projet va maximiser la création totale d'emplois dans les zones adjacentes. Donc, ce critère va être évalué par le PIDA Job Toolkit, qui va être fait par nous, le WEDANEPAD. Ensuite, les critères environnementaux, qui se focalisent sur les types de votre projet, s'il y a une émission de COD, comment ça se fait la quantité d'émissions de COD? Est-ce que c'est plus élevé ou bien plus faible? Ensuite, les critères de genre, c'est-à-dire est-ce que dans les chaînes d'activité de votre projet, s'en tient compte des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui participent et dans quelle chaîne de valeur des infrastructures ces femmes vont participer? Ensuite, les critères de connectivité rurale-urbaine, c'est-à-dire est-ce que votre projet va toucher des zones rurales et combien de populations sera touchée par les projets si on fait une zone de buffer autour de l'implémentation de votre projet dans un rayon de 100 km? Ensuite, ensuite les critères économiques, c'est-à-dire on va évaluer votre critère de projet en fonction des AID. AID, c'est l'index de développement des pays en termes d'infrastructure de chaque pays. Donc, chaque pays a ses critères d'indice. Donc, c'est avec ça qu'on va évaluer le critère économique. Ensuite, les critères financiers. Critères financiers, c'est-à-dire, est-ce que votre projet est financièrement attractif? Parce qu'il y a des projets qui attractent plus les bailleurs que des projets qui attractent moins les bailleurs. Donc, à la fin, les critères d'innovation, c'est-à-dire des approches opérationnelles innovantes ou des caractéristiques technologiques qu'on utilise, est-ce que c'est avancé ou bien pas? Diapositive suivante. Et il y a aussi des propositions. Je crois que c'est. Oui, c'est ça. Proposition de regroupement des critères sous une seule référence. C'est-à-dire, chaque critère, on va attribuer des poids pour évaluer votre projet, puisqu'il y a multi critères. Donc, dans ces multi critères, comment on va attribuer les poids pour évaluer le poids final de votre projet? Donc, c'est ça qui est présenté sur ce tableau. Par exemple, pour les critères d'éligibilité, on va dire réussite ou échec uniquement, pas donner de poids. C'est-à-dire parce que tu passes ou le projet passe ou pas. Donc, réussite ou échec. Donc, ça, c'est l'intégration régionale. Est-ce que le projet est régional? Donc, est-ce qu'il y a un accord clair entre les pays concernés? Donc, on va voir si tout est échec, donc votre projet sera échec. Mais si le projet, si tous ces critères d'éligibilité soient réussis, donc votre projet passe. Donc, pour les critères d'inclusivité et durabilité, c'est-à-dire sensibilité à la dimension des genres, il y a 10% et ainsi de suite. Donc, pour chaque critère, il y a des poids qu'on donne. Et si vous remarquez,
Oh.
pour l'impact économique et financier, il y a des critères, les poids des critères est plus élevé. Par exemple, l'impact économique, 25%, et l'attractivité financière pour les investissements du secteur privé, 20%. Donc, du coup, ça donne déjà de l'indice que si vous voulez soumettre votre projet, donc il faut bien faire attention à ces deux critères parce que ces deux critères vont être le plus élevé, qui auront le plus élevé comme poids. Donc, il faut bien faire attention au projet sur deux critères. Ensuite, diapositive suivante. Il y a aussi des combinaisons de critères nominaux et proportionnels. Donc, ces critères vont être combinés sur la base des performances pour chaque critère. Par exemple, le critère corridor, genre économique, financier, innovation. Et ensuite aussi, il y a aussi des critères d'évaluation proportionnelle relative à la meilleure performance dans les poules régionales. Donc, ces critères vont être évalués selon la performance dans les poules régionales, qui sont les critères d'emploi, l'environnement et la connectivité rurale-urbaine. Donc, ces trois derniers critères, c'est à nous de faire la compétition, l'évaluation de ces trois critères. Parce qu'une partie des critères du projet vient de la région, de la communauté régionale et puis les États membres. Mais les trois critères comme l'emploi, l'environnement et la connectivité rurale-urbaine, on va faire l'analyse de ça à notre niveau pour chaque projet. Ensuite, la diapositive suivante. Donc, on va voir un les critères. Donc, d'abord, pour les critères relatifs au corridor, qui a un poids de 15%. Donc, pour ces critères vont être évalués la capacité de chaque projet proposé à servir la même géographie d'une infrastructure existante ou prévue dans un autre secteur. Et pour faire ça aussi, on peut faire à l'aide d'études cartographiques ou les cartes SIG, du système d'information géographique. Par exemple, il y a déjà des cartes SIG au niveau des VIPIC, des Virtual Information on the PIDA Project, sur le PIDA Paptu, sur le site de PIDA Paptu, par exemple. Et vous pouvez avoir des informations aussi là-bas. Et aussi pour les projets qui s'alignent ou desservent une infrastructure existante ou des prévues dans un autre secteur, plus les scores obtenus sera élevé. Donc, si votre projet s'aligne avec d'autres types d'infrastructures, par exemple, si vous avez des projets en énergie et que ces projets est lié avec les projets pour les projets en eau. Donc l'eau et l'énergie se combinent et plus vous aurez la combinaison, plus le projet aura aussi les scores élevés. Donc, ce travail sera effectué en utilisant l'ensemble des données existantes du PIDA, donc qui sont incluses du centre. Oui, c'est ce que je venais de dire. Donc, on va utiliser les données dans le site web, dans des données existantes du PIDA qui existera au niveau des VPIC, des centres d'information de virtuels en ligne de PIDA. Et aussi, on peut aussi avoir des informations au niveau de chaque communauté, de chaque communauté CER. Et autres sources qu'on peut utiliser comme les plans directeurs venant de chaque région. Diapositive suivante. Donc, pour comment on va noter ces critères de corridor? Donc, pour noter des critères, il y a 5 notes. Donc, on peut donner une note de valeur 1 jusqu'à valeur 5. Donc, valeur 1, si le projet ne sert pas à un actif d'infrastructure ou existant ou imprévu d'un autre secteur. Si le projet n'a aucun lien avec d'autres projets, type de projet, donc on va le mettre 1. Et puis, si plus il y a des corrélations ou chevauchement géographique ou chevauchement avec d'autres infrastructures, plus la note s'augmente jusqu'au niveau 5. Diapositive suivante. Donc ici c'est un exemple du critère corridor, les projets d'interconnexion des réseaux de transport du Bénin. Par exemple, c'est un projet proposé dans le cadre du PIDA. Donc ces projets obtiendront une note élevée lors de l'exercice d'évaluation. Oui, on a fait l'exercice d'évaluation du PIDA PAPTU et puis il a obtenu une note élevée parce qu'il longe un corridor où un projet de transport est actuellement en cours de construction. Donc, voir projet autoroute ou Abidjan, Lagos. Donc, ces projets, comme il y a un chevauchement avec des projets de transport sur les longs de l'autoroute Abidjan, Lagos, sur les projets d'interconnexion des réseaux de transport du Bénin, donc il a obtenu une note élevée. Ensuite, le deuxième critère, c'est le critère d'emploi qui a un poids de 10%. Donc, pour ces projets, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de voir si votre projet maximise la création d'emplois. Donc, quel est le nombre d'emplois créés par ce projet? Donc, et ces critères, ce sera les task force dans les EHPAD qui va faire l'analyse des projets créés parce qu'on va faire des études, des simulations à partir des outils de PIDA Job Toolkit. C'est avec ça qu'on va faire la simulation pour savoir le nombre d'emplois qui va être créé pour ce projet. Donc, plus le nombre d'emplois est élevé, plus le poids aussi sera élevé. Ensuite. Okay. Donc, ici, c'est juste pour expliquer la boîte à outils de création d'emplois des ODA pour évaluer le nombre d'emplois potentiels pour les projets. Donc, avant de faire cette étude au niveau de task force. Ensuite, alors ici c'est un exemple sur les critères d'emploi. Selon la boîte à outils de création d'emploi, des projets de route Lamu-Garissa-Iziolo, c'est un projet de route de Lamu qui devrait créer en moyenne environ 16 000 emplois par an. Donc, ce projet serait évalué sur la base d'un rapport entre ces chiffres et ces CAPEX, ici 620 millions, et la ratio est donc de 25,8 emplois pour 1 million d'ISD. Donc, les scores de ce
projet... On a un problème de micro.
Que chaque projet, le nombre d'emplois que chaque projet peut créer par an. Et avec ça aussi, pardon, ok, je crois que c'est quelqu'un.
Christine, je crois qu'il y a quelques soucis de son sur le, je ne sais pas si c'est la bande passante, mais c'est passager. Vous avez pu, vous entendez correctement?
Ça va mieux.
Ça va mieux, c'est d'accord. Bien. Allez, continue, Christine. Critère numéro 3.
Oui, allô? Vous m'attendez?
Oui, on t'entend.
Oui, c'est bon. Vas-y.
Oui, ça va.
D'accord. Donc, c'est ça les critères. Oui. Maintenant, sur les critères, troisième critère des infrastructures. Attends, je crois que on peut aller sur on peut retourner sur le diapositive précédent, s'il vous plaît.
Oui.
Oui, d'accord, ça c'était fini. Okay. Donc, diapositive suivante. Donc, sur sur les critères climat. Donc, ça aussi, c'est une compétition qu'on va faire à l'interne pour évaluer les projets qui est. Chaque part investi obtient les meilleurs scores. Donc, pour respect les clients. Allô?
Oui, je crois qu'il y a une petite interruption. Si tu peux reprendre ce critère, Christine, je crois que ça a été coupé un peu. Reprends le slide 3, ce critère 3. Oui, Christine.
Oui, allô.
Oui, vas-y, oui. On t'entend, vas-y, continue.
D'accord. Donc, c'était ça. Plus votre projet émet le moins de COD, moins de COD par dollar investi. Et plus le score sera le meilleur. Donc, on va voir comment on donne le score à sa diapositive suivante. OK. Donc, ça, c'est pour expliquer comment on calcule les émissions de gaz à effet de serre, qui sera calculé sur les cycles de vie du projet. Donc, pour chaque étape du cycle de vie des projets, est-ce qu'on calcule le taux d'émission de COD par dollar investi? Et c'est en fonction de ça, on évalue la quantité de COD émis par dollar investi pour pouvoir dire que votre projet aura plus de notes ou moins de notes. Diapositive suivante. Alors, ici, c'est un exemple de projet comme les centrales hydroélectriques de Pandakoua. Donc, par exemple, ce projet coûterait 2,4 milliards pour une capacité totale de 2400 MW. Et selon la matrice d'hypothèse présentée, par exemple, ci-dessous, une centrale électrique émet, par exemple, 0,21 kt CO2 par mégawatt par an. Et on peut donc supposer que la centrale hydroélectrique de Pandakoua émettrait un total de 504 kg CO2 par an. Donc, ce qui donne 210 grammes CO2 par US dollar investi. Donc, le score climatique de ces projets sera évalué comme une partie du projet ayant les meilleurs rapports une fois connus. Donc, une fois connus les rapports de tous ces projets, et puis on donne le score maintenant. En fonction de chaque type de projet. Diapositive suivante. Alors, on parle maintenant de l'infrastructure régionale sensible au genre qui a un poids de 10%. Je crois que le dernier webinaire que nous avons eu, c'était concentré sur le genre. Donc, c'était les consultants qui ont travaillé sur ces parties même qui ont présenté ce qu'on attend par ces critères de genre. C'est-à-dire, c'est l'augmentation de la participation de la femme dans la chaîne de valeur des infrastructures. Donc, s'il y a votre projet, il y a des différentes activités. Et chaque activité, chaque étape, phase d'opérationnalisation, par exemple, phase de préfaisabilité, c'est-à-dire étude de préfaisabilité ou bien phase de réalisation, d'implémentation. Donc, tout ça, on évalue quels sont les nombres de femmes qui seront impliquées dans ce projet. Et aussi, à chaque étape de la chaîne de valeur. Donc, c'est en fonction de cela, on va dire que votre projet aura beaucoup plus de notes ou pas, ou que votre projet aura moins de notes ou pas, selon ces critères déjà, et qui a un poids de 10%. Donc, diapositive suivante. Donc, voilà la notation nominale de ces critères genre. On donne une note de 1 jusqu'à 5, qui s'augmentera en fonction aussi des nombres des femmes impliquées dans ces projets. Donc, par exemple, la note 1, les projets comprend entre 0, une action liée au marché public proposée dans la méthodologie de sélection pour soutenir la participation des femmes dans la chaîne de valeur des infrastructures. Donc, s'il y a moins de femmes dans la chaîne de valeur, ce sera 1. S'il y a beaucoup, si le nombre de femmes qui s'augmente au fur et à mesure, puis dans les différentes phases d'activité, il sera évalué à 5. Diapositive suivante. Donc, on a pris un exemple aussi sur le programme sud-africain d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable, RIPPP. Ce projet recevra une note de 5 sur la caractéristique de sensibilité aux gens, car il est conçu pour comprendre au compte plus de 5 actions spécifiques liées au marché public identifié dans la méthodologie de l'écran. Donc, comme ce projet contient 5 actions spécifiques liées au marché public, ce marché public identifié était... Il intègre les femmes dans ces différentes activités, ces 5 actions. Donc, c'est-à-dire, donc, à cause de ça, ce projet aura beaucoup plus de notes parce qu'il y a beaucoup plus d'actions qui contiennent beaucoup plus d'actions qui contiennent beaucoup plus de femmes qui participent dans ces actions. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, ensuite, la connexion spatiale des infrastructures régionales, c'est-à-dire la connectivité avec des zones rurales, qui a un poids de 5%. Donc, ces critères aussi, ce sera défini par les consultants et les task force, parce qu'on va évaluer à partir des études géographiques beaucoup plus, en utilisant les SIG, pour savoir combien de nombre de populations rurales est touchée par ces projets. Par exemple, si le projet relie deux zones à deux villes, et puis ces deux villes connectées, et puis à l'intérieur de ces deux villes, il y a des zones rurales qui vont être touchées et bénéficier par ces projets. Donc, on peut aussi établir les études de ça, et puis faire un rayon de 100 km autour des points d'installation du projet pour voir les zones rurales aux alentours qui seront touchées par ces projets. Donc, comment on évalue, on donne la note pour ces critères? Diapositive suivante, s'il te plaît. OK. Donc, oui, la notation proportionnelle du critère de connectivité. Donc, il y aura la notation proportionnelle parce qu'on évalue le nombre de la population rurale touchée par les projets par rapport au nombre total de la population rurale. Et on va définir... une zone rurale, si les habitants, ce seront moins de 50 000 personnes qui vivent dans une zone donnée. Donc, le nombre c'est en termes de pourcentage qu'on va l'évaluer. Donc, si c'est comme ça, il y aura la proportionnalité dans différentes zones. Donc, c'est-à-dire le nombre total des personnes rurales touchées sur le nombre total des personnes rurales. Donc, et si le projet connecte beaucoup plus grand de pourcentage des populations rurales, donc il reçoit les scores le maximum. Donc, diapositive suivante. Donc, juste un exemple ici, les chemins de fer à voie étroite à Abidjan-Ouagadougou. C'est un projet qu'on a pris dans le VIPIC. Et grâce à la cartographie ici, par exemple, nous avons eu une population rurale totale la population rurale totale vivant dans un rayon de 100 km autour des chemins de fer à voie étroite à Abidjan est de 15,4 millions de personnes. Donc ça, c'est le nombre total de la population rurale vivant dans un rayon de 100 km autour de ce chemin de fer. Donc la population totale de la région, c'est DAO. C'est DAO, c'est-à-dire la région là où il y a le Ouagadougou, je pense, c'est DAO, hein, si je ne me trompe pas, et de 349 millions d'habitants. Donc, les chemins de fer va être Abidjan-Ouagadougou couvrent 4,4% de la population rurale de la région, c'est-à-dire le nombre total de cette population rurale, le nombre de population rurale touchée, 15,4 millions sur divisé par 349 millions d'habitants. Donc c'est avec ces taux de pourcentage, donc on pourra attribuer une note de X en fonction de sa connectivité rurale par rapport au projet les mieux notés selon ces critères. Donc, on attend les autres projets pour savoir comment on va noter les nombres, comment on va noter ces projets, comment on...
Allô, Christine? Allô?
Allô, on n'entend rien.
Oui, oui, non, je crois qu'elle est... Elle a été... bon, je vais peut-être continuer jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne. Alors, ce critère, en fait, vous m'entendez bien? Allô?
Oui, on vous entend.
Oui, on vous entend.
Bon, en fait, ce critère... Bon, peut-être que je vais continuer parce qu'il me semble que Christine a peut-être un souci. Alors, ce critère est le plus important. Vous allez remarquer que le poids de ce critère est de 25%. C'est de loin le critère le plus lourd, je dirais, dans cette liste de 8 critères. Et la façon dont, malgré le nom qui s'appelle impact économique, normalement, pour évaluer l'impact économique, il y a des études assez spécifiques, assez détaillées, des retombées économiques, des impacts, population, etc. Mais dans ce cas, on a choisi en fait un proxy, c'est-à-dire on a choisi un index qui existe, qui est compilé par la BAD. La Banque africaine de développement compile l'index AIDI tous les ans. Cet index est un index multicritère, multisectoriel, basé sur les 4 secteurs PIDA, donc transport, énergie, eau et éthique. Et cet index permet de noter, en fait, d'évaluer quel est le degré de développement de l'infrastructure dans ces pays, dans tous les pays africains, et c'est remis à jour tous les ans. Donc, la façon dont on va utiliser ce critère, et voilà par exemple, voilà l'index, le scoring de 2018, qui est le plus récent disponible, qui montre que les Seychelles a un index de 94, l'Égypte 85, Libye 81, etc., l'île Maurice qui est cinquième, 76, etc. Et au bas de l'échelle, vous avez la Somalie, 3,4, Sud-Soudan, Niger, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va calculer la moyenne des pays. Allons dire qu'il y a 2 ou 3 pays qui sont participants dans un projet. On va prendre la moyenne de leur index AIDI. Et c'est cette moyenne qui va déterminer le score. Donc, vous voyez que, allons dire, si le Sud-Soudan, la Somalie et, je ne sais pas, le Tchad font un projet ensemble, comme ces 3 pays ont un index bas et la moyenne sera en dessous de 10, donc ce projet va scorer le maximum, c'est-à-dire 5. 5 est la note la plus élevée. Et avec une pondération de 25%, ça va. Il y a, vous voyez, une très forte, je dirais, bias ou un boost qui est donné aux pays qui ont l'index le plus bas. Et vous allez remarquer qu'au-delà de 50, on ne peut que scorer 1, en fait. Quand la moyenne de AIDI dépasse 50, et ben, on score le maximum qu'on peut scorer, c'est 1. C'est-à-dire que tous ces pays qui sont, je dirais, en dessous de l'Algérie. Alors, l'Algérie, c'est 55, Cap-Verde, c'est 48. Donc, les 8 pays les plus développés, en fait, ne vont pas bénéficier vont saturer, en fait, ne vont pas bénéficier pleinement de ce critère parce qu'elles sont. L'argument étant qu'elles sont déjà développées. Alors, quel est le proxy? C'est de dire que plus un pays, plus l'index est bas, plus ce pays ou ces pays vont bénéficier de ce projet. Voilà un peu la logique qui a été démontrée dans des études, dans les statistiques, tout ça aussi. Donc, si le projet, voilà, si l'index moyen est supérieur à 50, le projet score 1. Et si l'index est inférieur à 10, le projet score le maximum, c'est-à-dire 5. Donc, c'est ça la notation nominale des critères, du critère économique. Et vous allez remarquer que ce n'est pas lié du tout au projet, c'est lié au contexte, au pays. Donc, ce qui fait que ça a un impact très intéressant sur la collecte de données, c'est-à-dire que quelle que soit l'étape d'étude du projet, il n'y a aucun souci, c'est le fait d'appartenir ou pas à un pays qui détermine ce score. Un exemple, ça c'est l'exemple qui s'appelle interconnecteur ZTK, Zambie, Tanzanie, Kenya, et c'est un interconnecteur de transmission haute tension. Et on prend la moyenne de l'AIDI de ces trois pays, qui est de 22, 12 et 25, on a une moyenne de 20, donc ce projet recevra un score de 3. Ça c'est un exemple, voilà comment ça va être calculé. Le critère numéro 7, c'est le critère d'infrastructure régionale financièrement attrayante qui est là aussi, il a été fait, le choix a été fait de donner une pondération assez élevée de 20%. Pourquoi? Parce que l'argument étant qu'il faut, attirer le financement privé. Les financements publics ne sont pas suffisants pour financer en fait tous les projets. Donc, il faut essayer d'attirer les financements privés. Et encore une fois, en fait, ce qui a été utilisé, c'est une notation nominale. Et vous allez voir que c'est encore une fois une notation qui n'est pas vraiment liée au projet lui-même, mais au secteur du projet. Donc, il a été remarqué que tous les projets, par exemple, de TIC, de connectivité terrestre, et centres de données vont scorer 5 parce que c'est typiquement le genre de projet qui intéresse le plus, qui ont un plus fort retour sur investissement, qui intéresse les bailleurs et les financiers. En quatrième, avec une note de 4, c'est tout ce qui est projet portuaire. Mais les projets qui vont scorer le moins dans ce critère, c'est par exemple les barrages d'irrigation qui sont à plus long terme et qui vont scorer 1. Voilà comment ça va être noté. Et un exemple est ce projet de fibre optique connecté. Donc, c'est puisque c'est un projet de connectivité optique, le projet recevra la note la plus élevée. Voilà pour ce critère. Le critère d'innovation qui a un poids de 5%, c'est en fait… c'est un peu un critère qui a été développé, qui a été introduit pour en fait introduire cet élément d'innovation, pas seulement d'innovation technologique. L'innovation peut être technologique, elle peut être liée au mode de financement, elle peut être liée au mode d'implémentation, etc. Donc, innovation dans le sens large du terme. Et ce critère va être nominal. Donc, par contre, là, il y a 1, 3 et 5. Donc, soit le projet ne présente aucune innovation, donc elle va scorer 1. Soit elle a une forte innovation, 5. Soit elle est un peu au milieu, elle va scorer 3. Ça, c'était en fait les critères. Et un exemple, en fait, c'est ce critère de centrale photovoltaïque. Et donc, puisque... la centrale d'énergie photovoltaïque solaire est maintenant très très bien établie dans le monde, donc c'est pas super innovant. Par contre, c'est quand même plus innovant que des projets conventionnels, donc on va scorer 3. Maintenant, ça c'est un résumé en fait, la liste prioritaire et la liste de réserve. Donc ce qu'on appelle la liste de réserve, en fait c'est ce qu'on appelle la long liste. Il y a une long liste et une short liste. Donc, pour entrer dans la long liste, il suffit de respecter les deux critères d'éligibilité, c'est-à-dire d'être en projet régional et d'être dans le plan directeur du CER et d'avoir un accord entre les pays qui participent dans ce projet. Dès qu'on satisfait ces deux critères, on rentre dans ce qu'on appelle la long liste, la liste de réserve. Et puis, les 8 critères qu'on vient de voir servent à évaluer les projets dans le pool régional. Donc, toute l'évaluation se fait par pool. Donc, les régions, les pays dans la région Nord, tous les projets soumis dans la région Nord vont être évalués entre eux. Tous les projets dans la région Sud vont être évalués entre eux, parce que vous avez remarqué, il y a trois critères qui sont proportionnels. Donc, forcément, c'est proportionnel aux autres projets dans le pool. Et les 10 meilleurs projets dans le pool seront shortlistés, seront dans la liste prioritaire. Comme ça, on se retrouve avec 50 projets, comme il y a 5 régions. Mais les PEID, ce qu'on appelle les petits États insulaires en développement, comme ils ne sont pas très, très connectés, les critères ne sont pas très pertinents pour eux, les critères continentaux, etc., l'intégration avec le continent, ils vont chacun bénéficier d'un projet indépendamment du critère continental. Donc, finalement, on va se retrouver à au moins 55-56 projets. Voilà, ça c'était en fait la présentation. Je dirais que c'est une présentation qui résume les 12 projets de formation en fait. Hein. C'est l'essentiel de ce qu'on a présenté dans les formations régionales. Et je pense que ça résume, c'est un bon résumé de tout ce qui a été vu. Maintenant, je vais peut-être vous faire une autre petite présentation qui s'appelle les moyens de communication.
Bonjour, est-ce qu'on peut déjà poser des questions
sur la plateforme? Oui, je pense, allez-y, je pense que c'est une bonne idée, oui. Allez-y, voilà. On vous écoute.
Merci, moi c'est Mamoudou Samba Diallo du Sénégal.
Oui.
Je vous remercie déjà pour la présentation qui est assez claire et qui nous a permis quand même de voir des choses qu'on n'a pas pu déceler lors des présentations précédentes.
Oui.
À la suite de votre présentation, moi j'ai une question ou un souci parce qu'un travail similaire a été fait en tout cas pour notre communauté, pour la CEDEAO. Pour la CEDEAO, on a élaboré un plan directeur de développement des infrastructures 2018-2040, dans lequel plan on a choisi des projets dans les mêmes secteurs que le PIDA PAP 2, dans transport, que ça soit interconnexion, que ça soit voilà les 4 secteurs qui ont été listés ici. On a choisi ces 4 secteurs là. On a élaboré des grilles de priorisation. On a fixé des critères qui sont à 90% semblables aux mêmes critères que vous avez décrits ici. Donc, cette priorisation étant déjà faite, est-ce qu'on va refaire une autre priorisation, sachant qu'il y a un risque de dévier de ce plan des infrastructures de la CEDEAO, ou est-ce que la CEDEAO va prendre directement ce plan-là et vous le donner, et dans lequel cas, les pays n'auront après rien à faire. Donc, vraiment, j'aimerais des explications par rapport à ce plan-là.
Merci Mamadou, c'est une très très bonne question et en fait la CEDEAO est un cas particulier dans le sens que il y a eu une formation qui s'est déroulée à Abuja au mois de février. Malheureusement le Sénégal, je crois, pour des raisons logistiques n'ont pas pu participer, mais au cours de cette formation où mes collègues étaient présents et le représentant de la CEDEAO nous a fait très clairement comprendre en fait que puisque eux ils sont bien bien avancés par rapport à leur plan directeur comme vous avez mentionné, eux ils vont prendre les devants tous les projets de la région ouest en fait qui est la CEDEAO. La CEDEAO c'est la région ouest, hein. Toute la région, tous les pays de la région ouest sont membres de la CEDEAO, vont être puisés de ce même plan directeur. Donc il y aura aucune duplication, c'est uniquement les projets qui se trouvent déjà dans le plan directeur de la CEDEAO qui vont être priorisés. En ce moment même, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de la CEDEAO pour sélectionner parmi tous les projets de ce plan directeur quels sont ceux qui, quels sont les, je dirais, 10 ou 15 ou 20 projets qui seront triés, sélectionnés pour être soumis dans le cadre. Et la soumission, en fait, va même se faire directement par la CEDEAO. Les membres seront consultés, mais c'est la CEDEAO qui a pris les devants pour faire ce travail. Alors, maintenant, il faut aussi voir les autres CER. On a les autres cas, par exemple, je peux vous dire que dans la SADC au sud, la région Afrique australe, Là, par contre, la SADEC nous a fait clairement comprendre pendant la formation qui s'est tenue à Gaborone que eux, en fait, ils préfèrent que ce soit les pays qui soumettent pour avoir ce qu'ils appellent le ownership. Et eux, ils vont faire une validation finale. Ils vont quand même vérifier que les projets s'alignent au plan directeur de la SADEC et tout. Donc, il y a tous les, voilà, en gros, les deux extrêmes possibles entre un projet, une soumission qui est pilotée par le CER ou une soumission qui est un peu, je dirais, pilotée par les États membres avec une validation finale par le CER. Donc, entre ces deux extrêmes, vous avez toute la latitude possible, de toutes les combinaisons possibles sont possibles. Voilà, je respecte que ça répond un peu à la question et que ça a été utile pour même les autres régions aussi. Alors, en fait, voilà, si vous voulez poser une question, je pense que dans cette version de Zoom, là, on m'a pas donné, je vois pas les options de lever de main. Donc, dites-moi simplement, ceux qui veulent poser une question, je vais à ce moment-là vous libérer le micro. Comme ça, vous libérez le micro et vous posez votre question. Ah, je vois Mamadou qui a levé la main. Voilà. Bon, c'est voilà. Bon, je crois qu'on a, je pense, ça a répondu à votre question. Ça répond à votre question?
Oui, oui, ça répond parfaitement à ma question et ça me rassure. Maintenant, à partir de cela, j'ai une dernière question. Est-ce que maintenant, pour nous qui sommes de la CDAO, on n'a pas besoin de s'inscrire à l'eau sur le site?
Alors, non. En fait, non, au contraire. Il faut s'inscrire pour une bonne raison, pour la simple raison que l'inscription vous permet de voir. Vous avez une visibilité totale sur non seulement vos projets, mais tous les projets des autres régions. Et n'oubliez pas, il y a aussi une fonction qu'on a créée sur le site qui s'appelle un discussion forum, une forum de discussion par projet. Bon, malheureusement, enfin, on est encore à l'étape initiale. La CDAO n'a pas encore soumis, en fait, ce projet, mais ça va pas tarder, en fait. Je suis en contact avec M. Chris Appia de la CDAO et ils sont en train de finaliser ça. Et dès que ces projets seront postés, en fait, je dirais, sur le site, il y a cette fonction de qui est un peu comme Facebook, hein, c'est un genre de commentaire qui est visible par tout le monde, mais qui est log, hein, qui est une traçabilité de toutes les discussions où les États membres auront l'occasion de discuter, de commenter, même de donner leur avis, de modifier éventuellement, hein, en consultation avec la CER, sans changer le projet. Le projet, on peut changer quelques éléments du projet sans toucher au projet, hein. Voilà un peu. Je vous invite, alors, même si c'est la CDAO qui prend les devants, où je vous encourage fortement parce que c'est très, très formateur. On est aussi intéressé à connaître votre avis. Vous allez voir, en fait, tout ce qui est posté sur le site, toutes les nouvelles, les webinaires thématiques. Et on a eu un jusqu'à maintenant sur le genre, mais on planifie d'autres. Thématique. Je ne veux pas m'engager maintenant parce que tant que les ressources, les personnes ressources n'ont pas confirmé, on ne veut pas trop faire le marketing de ça.
Une fois que c'est bon. Merci.
L'idée, on va faire ça. D'accord.
Merci.
Lamine, qui veut poser une question. On vous écoute, monsieur Lamine. Allô, Monsieur Lamine. Lamine, Yaoui, Sarawi, là. Allô? Monsieur Lamine? Bon, je crois que il a levé la main, mais on n'arrive pas à l'entendre. Il a peut-être un problème de micro. Je sais pas. Mais en attendant, si on peut prendre une autre question. Ah oui, alors Chetibi demande si on peut répondre aux questions par écrit, bien sûr. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions. Ah, d'accord, il y a des questions déjà. Alors, peut-être on va prendre les questions dans le chat alors. Il y a une question de Skander. Quel est le délai pour faire les propositions de projet? Alors, très bonne question. Alors, le délai était normalement pour fin avril. Mais comme on a eu des délais au niveau de la formation du Nord, région Nord, donc ce délai sera prolongé. On ne sait pas encore jusqu'à quand. On attend déjà une formation un peu plus officielle pour le Nord. À ce moment-là, on va fixer le nouveau délai. Mais personne ne va être pénalisé. Hein. Soyez rassurés, il y aura aucune région ne sera pénalisée parce que on veut donner la même chance à toutes les régions. Une question de Ben Abou.
Alors, d'abord, oui, si vous voulez que je cite mes questions en même temps.
Allez-y.
Très bien. Donc, la première question, qu'en est-il pour la phase d'inscription de projet? Quand est-ce qu'elle va terminer? Comme ça, on va cibler déjà la période d'inscription des projets.
Mais c'est la même question c'est la même question que je viens de répondre. C'est le délai, c'est le deadline en fait, hein, qui était de fin avril, qui va être prolongé. On connaît pas la nouvelle, mais certainement vous avez encore quelques semaines, hein, au moins 3-4 semaines, je dirais. Donc, mais par contre, il faut pas attendre la dernière minute parce que, comme je vous ai dit, il y a cette fonction de discussion forum sur le site. Donc, le plus tôt vous postez votre projet, même si c'est un draft, hein, même si c'est un titre, même si c'est très, 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 très succinct, ça permet de voir déjà ça. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que dans cette période de confinement, de Covid, etc., c'est un outil, en fait. Hein. Je vois notre collègue qui est avec le masque et tout. La plupart d'entre vous sont avec les masques, Amada et les autres. Donc, effectivement, c'est une période difficile, on reconnaît, mais c'est cet outil. Profitez-en, il y a un outil à votre disposition. Vous pouvez poster un projet. C'est visible par tout le monde et chacun peut poster ses commentaires, faire sa contribution. Bon, bien sûr, il y a une modération, on va modérer un peu. Et il y a un dialogue qui peut s'établir sur le site. C'est ce qu'on essaye d'initier pour qu'une fois qu'il y a quelques projets sur le site, il y a un dialogue très constructif qui se fait autour de ces projets, qui permet d'ajouter de la valeur, d'améliorer ces projets. Donc voilà, deadline, okay. Je vous recommande premièrement à vous inscrire le plus tôt possible. Deuxièmement, concerter avec votre CER, comme on a vu avec le cas de la CDAO, qui va piloter. Dans votre cas, je pense que Maroc, il faut se rapprocher de Monsieur Younes, qui est aussi connecté en ce moment-ci, et c'est lui qui pourra en fait vous guider un peu sur Younes. Oui, tu pourras intervenir peut-être pour expliquer à Monsieur Ben Abou.
D'accord, on est en contact.
Voilà.
Donc, on est en contact permanent.
Super. Donc à ce moment-là, une fois que vous êtes tombé d'accord plus ou moins sur le ou les projets, vous les postez. Comme ça permet à d'autres membres de voir vos projets, de participer, de commenter, de soulever des questions, vous aurez des réponses et tout. Et si vous avez, par contre, si vous avez aussi des difficultés, en fait, il y a certains CER qui nous ont demandé de l'aide, ils aimeraient avoir de l'aide très, très technique, de l'aide technique. Et on a des collègues, en fait, qui sont connectés aussi, mais c'est des experts qui sont financés par l'Union européenne. Qui peuvent, en fait, on peut allouer à ce moment-là de façon très ponctuelle des jours, en fait, pour que ces experts puissent aider les États membres et les CER à mieux cerner, à mieux définir leur projet. Voilà. D'accord. Donc, le plus tôt, voilà. Je vous encourage à D'accord. commencer le plus tôt possible.
D'accord. J'ai encore trois ou quatre questions.
Allez-y rapidement, ouais,
si c'est rapidement. J'ai remarqué que les projets structurants tels que les interconnexions électriques entre les pays sont un peu pénalisés par un certain nombre de critères tels que l'emploi, s'intéresser au monde rural, le genre, etc. Ce sont des projets structurants qui ne tiennent pas compte tellement de ces choses. Par contre, ils tiennent compte d'autres critères qui ne sont pas inscrits dans vos listes de critères, tels que la sécurité d'approvisionnement des pays, tels que la sécurité des réseaux, tels que l'échange en cas d'incident, tels que les problèmes qui peuvent se poser au niveau des réseaux des pays. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, je remarque aussi que les scores, que vous avez, la liste des scores que vous avez établie, d'ailleurs, la première question, on ne sait pas comment vous avez calculé ces scores, d'une manière. De l'autre côté, ces scores pénalisent les pays du Nord. D'ailleurs, cette remarque a été remarquée par nos collègues de l'Algérie, Mme Kassi, que je lui salue de ce point. Je vois que nous n'avons pas de chance pour faire passer nos projets en tant que pays du Nord de l'Afrique parce que ces critères nous pénalisent énormément. Et d'ailleurs, je pose une autre question. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un projet entre un pays développé, comme vous le dites, entre parenthèses, et un pays qui a un score un peu moins, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas, tel que, par exemple, l'interconnexion entre deux pays qui ont un score qui sont très éloignés. Ma deuxième, troisième question, c'est d'abord, on veut savoir le soutien de l'Union africaine pour ces projets. Quel genre de soutien qu'ils vont apporter à ces projets? Parce que d'après les critères que vous avez choisis, c'est que les projets sont sur pied avec ces critères. Ils sont bancables, ils sont attractifs par le privé, ils sont régionaux, etc. Donc ils n'ont pas besoin de soutien. Il faut soutenir les projets qui n'ont pas ces critères parfaits, si j'ose dire, parce que les projets qui ont tous ces critères là, donc ils n'ont pas besoin de soutien, ils n'ont qu'à être réalisés. Mais il faut soutenir les projets qui ont un bénéfice pour les pays, mais qui sont un peu pénalisés par d'autres critères ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est ma remarque. Et merci.
Bon, en fait, je vais reprendre dans l'ordre, en fait, ces questions. En fait, par rapport à le Nord étant pénalisé, en fait, c'est pas vraiment le cas. Comme je vous ai dit, chaque région a droit à 10 projets. Donc, à aucun moment, le Nord n'est en compétition avec le Centre ou l'Est ou l'Ouest, etc. Donc, la compétition ne se fait que parmi les pays du Nord. Dans la région Nord. Et vous allez voir, la région Nord, bon, à part quelques pays, c'est quand même assez homogène comme niveau de développement, niveau d'infrastructure. Donc, je pense que cette question sur le Nord étant pénalisé n'est pas trop pertinente parce que, en fait, vous avez droit à 10 projets. Et pour reprendre votre question spécifique sur la moyenne, mais c'est la moyenne. Donc, si vous avez un pays qui est très développé au niveau de l'infrastructure, donc un index EIDI élevé et un pays moins développé, ben, c'est la moyenne des deux qui va être utilisée pour le critère impact économique. Ça reflète un petit peu c'est assez juste au niveau de même je dirais au sein de la région Nord, ça permet d'équilibrer un peu les projets entre eux. Maintenant, pour votre question sur la ligne de transmission, effectivement, c'est vrai, mais il faut aussi réaliser que ces critères ont été choisis pour être très, très inclusifs, dans le sens que vous vous rendez compte, il faudrait le même jeu de critères pour pouvoir couvrir les quatre secteurs et les cinq régions du continent. Donc, malheureusement, il a fallu faire beaucoup de compromis pour aboutir à ce jeu de critères qui permet de couvrir n'importe quelle région, n'importe quel pays et n'importe quel secteur. Donc, mais par contre, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que, par exemple, pour un projet de transmission, il est clair que le projet de transmission doit aussi former partie du power pool, du plan directeur du power pool, qui est en général, c'est le cas, parce que vous allez voir dans la plupart des REX, comme ECOWAS, ils se basent essentiellement sur le WAP, par exemple. Donc, ECOWAS n'a pas de plan directeur autre que celui du WAP pour la transmission électrique. Donc, il y a une très, très forte corrélation, je dirais, ou liaison entre ce qui se passe au niveau des institutions spécialisées pour la transmission électrique et le REC. Maintenant, votre dernière question, c'était par rapport au soutien de l'Union africaine. Bon, il faut comprendre, ce n'est pas seulement l'Union africaine. PIDA, il y a trois partenaires. L'Union africaine pilote en fait l'initiative.
Ah, je pense qu'il y a un part de la connexion.
Allô, vous m'entendez? Allô? Allô?
Oui, moi je vous entends. J'entends la réponse de ma question.
On vous entend plus. Là.
D'accord, d'accord. Merci. Donc, je disais qu'il y a trois partenaires. L'Union africaine, c'est le partenaire en fait qui pilote en fait l'initiative PIDA, mais qui s'occupe surtout de tout ce qui est politique, harmonisation des politiques. Par exemple, dans le domaine de l'électricité, il y a un projet phare qui s'appelle Marché unique pour l'électricité, Marché africain unique. Il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites. C'est financé par l'Union européenne sur l'interconnexion de tous les réseaux de transmission au niveau de l'Afrique et la définition d'un modèle, je dirais un marché, un modèle pour un marché de l'électricité unique. Donc ça, c'est le volet, je dirais, policy, l'harmonisation des politiques, etc. Le cadre réglementaire, je dirais. La prochaine institution, c'est AODA NEPAD, dont Younes et Christine font partie. Ça, eux, ils sont responsables de l'implémentation, donc tout ce qui est outils de SDM, Quality TQM, etc., Job Creation Toolkit. Donc, tout ce qui manque entre pour transformer un projet qui est dans un shortlist de PIDA pour l'emmener dans, je dirais, le pipeline d'un bailleur comme la BAD. Et justement, la BAD, c'est le troisième partenaire qui est le partenaire, je dirais, qui est chargé de définir une stratégie financière pour l'implémentation, un financial implementation strategy, et qui est aussi le plus grand bailleur, le plus grand DFI bailleur au niveau de l'Afrique. Et en fait, AODA, c'est un peu la transition, en fait, comment transformer ces projets, comment les soutenir pour qu'ils puissent aboutir vers la phase, je dirais, de recherche de financement auprès d'un bailleur, des financiers, etc. Voilà, en gros, donc quel est le soutien de l'Union africaine? Ben, le soutien à ce stade, c'est pour piloter en fait tout ce processus avec l'aide des deux partenaires dont je vous ai mentionné, AODA NEPAD et la Banque africaine de développement, et aussi durant le cycle de vie de projet pour soutenir cet aspect cadre réglementaire, politique, etc. Voilà, j'espère que ça répond un peu à vos questions.
Ok, merci Monsieur Krishna.
Ouais. Alors, je reprends peut-être la liste dans le chat. Il y a une question de Khaled. La présentation était, on l'envoyait tout de suite. En fait, la présentation, Monsieur Khaled, si vous êtes déjà enregistré, je pense que vous avez déjà un login. J'ai vu quelque part. Donc, vous pouvez le télécharger. La présentation est déjà disponible depuis hier sur le site en anglais et en français. Donc, vous pouvez déjà le télécharger. Il est disponible sur le site web dans la section qui s'appelle Downloads, Documents, etc. Alors, Skander de l'Algérie, de quels avantages financiers bénéficieront les projets qui seront sélectionnés? Alors, à ce stade, il n'y aura pas vraiment d'avantages financiers dans le sens que cette shortlist, ça va être la shortlist qui va bénéficier justement de la phase 2, c'est-à-dire la phase d'implémentation de projet. Donc, tout ce qui est support en termes de développement de projet, d'études, etc. Et ça va être aussi le shortlist dans lequel les bailleurs de fonds vont venir, si vous voulez, puiser. Ça va braquer un peu les projecteurs sur ce projet pour dire que voilà, c'est un projet qui a été validé déjà par les chefs d'État. Donc l'avantage, ce n'est pas vraiment à ce stade financier, c'est un avantage, je dirais, politique. C'est, ce sont les projets qui auront la plus haute validation, si vous voulez, politique au niveau de l'Union, du sommet des chefs d'État. Mais après, il reste un gros travail de développement de projets, d'études, etc., pour emmener ces projets vers la phase de recherche de financement, de financial close, pour qu'ils puissent mobiliser les financements pour être implémentés. Donc, pas directement, pas l'avantage financier, mais dans l'autoroute, si vous voulez, en fait, la voie privilégiée pour aller vers, en fait, un financement. Alors, ça, c'est bon, question. Ah, votre présentation index, vous avez mentionné 54 member states. Ah, malheureusement, en fait, comme je vous ai dit, Lamine, je pense que Lamine est du Sahraoui. Effectivement, vous avez raison. La Banque africaine de développement, en fait, dans son index, il n'y a que 54 pays parce qu'ils n'ont pas encore intégré le Sahraoui. Voilà, c'est l'explication. Hein. En fait, on a repris l'index de la BAD, mais c'est le consultant qui était chargé de développer les critères, mais ces critères ont déjà été approuvés par ce qu'on appelle le STC, le ministre sectoriel au Caire au mois de novembre. Donc en fait, mais c'est un point, en fait, on note ce point que comment par exemple, comment évaluer un projet qui serait soumis par le Sahraoui, comme quand vous n'êtes pas dans cet index. C'est une bonne question qu'on note, on va revenir avec vous là-dessus. Je ne vois pas lever. Bon, comment lever la main, c'est quelque part dans les menus. Vous pouvez laisser vos coordonnées. Bon, les coordonnées de M. Younes, je vais le mettre dans le chat, Younes, si c'est pas un problème, je vais rajouter l'email de Younes dans le chat, comme ça on pourrait le contacter. Ah voilà, c'est fait, Younes, merci. Ouais, c'est déjà fait. Voilà, vous allez voir juste après, Younes a déjà mis son email. Les projets retenus seront financés par les prêts. Si oui, pouvez-vous nous évoquer les avantages accordés par les banques? Ben, ça, j'ai déjà un peu répondu à cette question dans le sens que chaque projet est très, très, très spécifique. Les bailleurs de fonds, c'est toute une étude. C'est des due diligence qui durent 6 mois, une année pour évaluer les projets. Donc, c'est au cas par cas, je dirais. Et certainement, un des critères, en fait, moi, j'ai un peu travaillé pour la BAD. Je sais qu'un des critères qui pèse lourd dans, en fait, la décision de, par exemple, de financement concessionnel, c'est cet aspect de l'impact économique, en fait. Au-delà de la rentabilité financière, il regarde surtout quel est l'impact économique. Donc déjà, si vous avez, si tous les critères de sustainabilité, etc., d'impact économique sont pris en compte dans la sélection, bien, ça améliore vos chances que ça reçoive des financements concessionnels. Vous avez aussi des financements climat, qui sont concessionnels, et on a un volet climat. Vous allez voir le volet mitigation, en fait. Il faut corriger. Comment peut-on... Bon, ça, c'est OK. Effectivement, répondre aux 8 critères pour être sélectionné. Est-ce que le projet à soumettre doit impérativement répondre aux 8 critères? Non. En fait, les 8 critères... Ce n'est pas des critères de présélection, justement. Il n'y a que 2 critères éliminatoires, je dirais. Les 2 critères éliminatoires, c'est les critères d'éligibilité, oui ou non. Success, failure, succès, échec. Une fois que le projet a passé ces 2 critères, ben, il est dans la longue liste, en fait. Elle est plus ou moins présélectionnée. Après, c'est la sélection dans le pool pour sortir les 10 meilleurs projets. Mais ce n'est pas la fin du projet. Si un projet est 11e ou 12e, ça ne veut pas dire que ce projet est rejeté. C'est une liste tournante, en fait. C'est une rolling list, une liste tournante de projets. Donc, dans un premier temps, ces 10 projets seront traités. Et à un moment donné, après une année, deux années, une fois que les projets sortent, en fait, passent à l'étape supérieure de financement, ben, il y a d'autres projets qui vont remonter. Il y a d'autres projets qui vont remonter dans la shortlist pour remplacer ces projets pour être traités. Voilà, donc, doit être impérativement répondre. Bon, là, les 8 critères, c'est les critères de scoring. Hein, donc, ça dépend de la valeur des critères pour pouvoir être sélectionné ou pas. Donc, Khaled voudrait prendre la parole. Peut-être on vous écoute, Khaled. Attendez.
Oui, bon, c'est pas très Khaled, c'est Tahani, mais j'utilise le laptop d'un collègue.
Ah, d'accord.
C'est Tahani Silet. D'accord.
Allez, d'accord.
Alors, merci, Dr. Krishna. J'avais deux petites questions. La première était, est-ce que la longue liste sera annoncée au pays? C'est-à-dire, une fois la longue liste est faite, la longue liste, le premier sélectionnement, est-ce que ça sera annoncé au pays ou pas? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est à propos des critères, parce qu'aujourd'hui, la vision est plus claire comment le scoring serait fait. Ça, je n'arrivais pas à m'imaginer comment ça aurait... être fait d'abord, mais en voyant la manière avec laquelle le scoring sera fait, je vois que la forme avec laquelle on présente les projets ne donneront pas d'informations suffisantes pour pouvoir faire le scoring. Alors là, je suis un peu confuse entre les deux. Est-ce que on doit présenter plus de détails et en même temps, on n'a pas la possibilité, selon le temps que nous avons et les possibilités aussi, de présenter plus de détails sur les projets. Alors, je suis un peu dans la confusion ici, comment ça sera fait. Alors, si tu pourrais avoir nous
donner bien sûr. Bien sûr. Merci pour la question. Bon, d'abord, la longue liste, en fait, très simple, c'est que déjà, si vous êtes sur le site, il faut déjà être sur le site pour être sur la longue liste. Hein. La seule façon de soumettre les projets, c'est à travers le site web qui est public pour vous, hein. Vous, les points focaux. Une fois que vous avez un accès login, ben, vous allez voir tous les projets. Tout le monde va voir tous les projets, premièrement.
Deuxièmement… excusez-moi. Alors, oui. La longue liste, c'est la liste qui est sur le…
Non, pas forcément. Il y a un filtrage qui va être fait. Une fois, en fait, vous réalisez bien qu'il faut une date butoir. Pourquoi il faut la date butoir? Parce qu'on a des critères proportionnels. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être évalués que quand on a la liste complète de tous les projets dans cette région. Donc, allons-y à la date butoir, et je ne sais pas moi, fin mai. Allons-y, hein, ça ne veut rien dire, mais supposons X. À une date X, on dit voilà, maintenant stop, tout ce qui est dans le pipeline, tout ce qui est dans le système, c'est la liste qui va être traitée. Il y a les membres de la task force qui vont se réunir, qui vont se pencher là-dessus, qui vont éplucher projet par projet, qui vont regarder tout ce qui a été soumis. D'abord, ils vont regarder les deux critères d'éligibilité.
Oui.
Ben, tout ce qui passe les deux critères d'éligibilité vont passer dans la longue liste. Donc, votre question, est-ce que la longue liste va être affichée, rendu public, à mon avis, oui. Pourquoi pas? Pourquoi elle ne serait pas rendue publique? Mais ce serait peut-être une question de timing. Moi, je crois que, en fait, si vous avez dans la présentation de Christine, vous avez vu, il y avait un genre de flowchart hein, qui montrait les 5 étapes. Et à un moment donné, entre l'étape, vous allez voir l'étape 2. À l'étape 2, on sort la longue liste. Ensuite, on passe sur les 8 critères, on sort la shortlist. Ensuite, ça va dans ce qu'on appelle le Continental Workshop. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se passer avec la pandémie et tout, s'il y aura ou pas. Il était prévu une réunion physique à Addis de tous les pays. On serait invité à Addis au mois de septembre. C'était prévu, mais je ne sais pas si ça va se faire maintenant ou quelle forme ça va prendre, je ne sais pas trop. Où, justement, cette longue liste allait être présentée, discutée, challenge, etc. C'était une occasion très, très démocratique pour tout le monde de voir comment ça a été traité, comment ça a été filtré, de discuter, de sortir en fait la fameuse, non seulement la long list, mais aussi la short list en fait. C'est-à-dire que, mais la short list, elle est plus technique. Vous allez voir la short list, on ne l'a pas montré, mais il y a un fichier Excel qui a été développé qui, si vous voulez, automatise un peu tout ce qu'on vous a montré dans les slides là. Donc, il y a des formules Excel qui ont été programmées pour calculer automatiquement, pour filtrer les listes, pour sortir les 10 meilleurs projets par région. Donc, la longue liste, une fois qu'elle a passé la task force, elle va être soumise à ce fichier Excel, ce processus de sélection qui va sortir la short list. C'est quoi ? C'est les 50 projets dans les 5 régions. Et tout ça, ça va être représenté dans une forme de concertation continentale. Est-ce que ça va être un face-to-face? Je ne sais pas. Personne ne peut dire à ce stade comment ça va se faire. Mais c'est prévu de cette ouverture à tout le monde aura droit à la parole pour discuter, pour poser des questions, pour comprendre, etc. Voilà. La dernière question, c'était par rapport au scoring. Oui. En fait, quand vous dites que ce n'est pas très clair, est-ce que vous avez des exemples, en fait? Donnez-nous des choses concrètement. Donnez-nous un exemple, par exemple. Qu'est-ce qui n'est pas clair, en fait, dans les critères?
Non, ce n'est pas le fait qu'il n'est pas clair. Au contraire, c'est devenu clair. Alors, on ne sait pas comment on peut s'en retirer pour pouvoir avoir le scoring. Que nous avons, ce sont des choses très préliminaires et la manière avec laquelle le scoring sera fait voudrait plus d'informations, voudrait des informations plus que les informations que nous avons sous les mains maintenant.
Alors, c'est le
challenge de mon point de vue. Comment s'en sortir? Ben, je ne sais pas, parce que à ce moment-là, par exemple, il y a des projets proposés qui n'ont pas de fonds. Alors, nous ne pouvons pas avoir un consultant pour donner plus de détails avec lesquels le scoring sera dans la faveur du projet. Alors, là, on est un peu perdu entre la méthode de scoring et le niveau de la présentation des projets proposés. Vous comprenez ma question?
Je comprends très bien. Mais par exemple, si on prend les 8 critères, vous allez remarquer que le critère économique et le critère attractivité financière, qui représentent 25 et 20 %, donc 45 % du poids, n'ont rien à voir avec le projet. Hein.
Oui, donc, ça a à voir avec les informations des pays.
Oui, les pays, soit les pays, soit le secteur. Donc, c'est sectoriel ou contextuel. Maintenant, les autres, quand vous regardez en fait le CO2, etc., en fait, la façon dont ça a été structuré, on vous demande très, très peu d'informations finalement. Il y a peut-être qu'il faudrait que je vous montre le fichier Excel qui est utilisé pour faire le… Malheureusement, on ne peut pas le partager, mais vous pouvez le visionner, vous pouvez le voir ensemble. C'est que c'est calculé avec les benchmarks, avec le coût au kilowatt, allons dire au mégawatt. On sait qu'une centrale solaire, on connaît à peu près les coûts en millions de dollars par mégawatt, une centrale hydro, on connaît à peu près, c'est 2 à 7 millions de dollars le mégawatt. Et avec ça, on sait aussi quelle est l'émission de carbone, c'est le life cycle cost, hein. C'est le life cycle emission, c'est les émissions de durée de vie, cycle de vie.
Le CO2.
Voilà, CO2. CO2 ou gaz à effet de serre, n'importe quel gaz à effet de serre, ramené au CO2. Donc, on a ces benchmarks, ça c'est connu en fait. Donc, on va pas vous demander toutes ces informations. Finalement, tout ce que vous avez besoin de soumettre, c'est… En fait, le guide, le plus simple, c'est ce que je vous conseille d'aller voir, en fait, si vous êtes déjà enregistré sur le site. Allez voir le project submission, vous allez voir les étapes. Ben, c'est tout ce qu'on vous demande. Par exemple, si c'est un projet de transmission de lignes électriques, c'est la distance et je ne sais même pas s'il y a la puissance qui est là-bas, mais si c'est une centrale électrique, c'est la puissance en mégawatts, c'est tout. Et le type de technologie. Avec ça, on calcule tout le reste. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller faire des études. Tout est fait avec des benchmarks, avec des données que nous, on a derrière ou bien qu'on va chercher. Par exemple, pour tout ce qui est ces histoires de Double Lab, de comment ça s'appelle, Geographical Information System, etc., de TIC, comme on dit en français, ben ça va être un travail sur Google Maps, Google Earth, tout ce qu'on vous demande, c'est de télécharger, de upload en fait un fichier.
Oui.
Par exemple, un fichier Google Maps ou Google Earth, un fichier KMZ. Vous avez un guide sur le site. Hein. Vous pouvez télécharger le guide de soumission. Là, ils expliquent comment faire avec Google Earth, comment identifier votre projet et comment le faire remonter sur le site. Comme ça, nous, on récupère les coordonnées GPS qui servent à bien cerner où se trouve le projet pour pouvoir évaluer tout ce qui est connectivité rurale et corridor, etc.
Oui, et une toute dernière question. Qui fera la validation?
Ben, les membres du Task Force. Vous avez 16 membres.
Du Task Force, c'est-à-dire les représentants des REC, de CER, je ne sais pas en français, les représentants du CER sont parmi le Task Force?
Pas officiellement. Parce ils ont fait la demande.
Là, ils seront arbitres et.
Non, ils ne sont pas. Les membres du CER ne sont pas membres du Task Force.
Oui.
Les membres du Task Force sont l'Union africaine.
Les experts.
4 experts de l'Union africaine, 4 experts de l'AUDA, 4 experts de la BAD et 4 experts de UNECA, ECA.
À la dernière
United Nations, la CEA, la Commission économique africaine.
Ah, ouais. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Christin.
Voilà, pas de souci. Alors, je vois, il y a Cassie Gania de l'Algérie. À quelle étape les RECs seront associés dans le choix des projets? Est-ce que ces projets peuvent soumettre d'ordre ces pays d'ores déjà les propositions de manière unilatérale? Vous avez mentionné tout à l'heure que les projets électriques doivent figurer dans le plan de développement des poules. Est-ce que c'est une obligation ou juste une proposition? Bon, je pense que c'est une proposition, mais si vous avez un nouveau projet qui n'est pas dans le pool, vous pouvez le soumettre. Hein. En fait, c'est ça la beauté de ce programme, c'est que le PIDAR, c'est que on encourage en fait les projets qui sont déjà dans les RECS, mais c'est pas exclusif. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui est nouveau, c'est aussi vous pouvez le soumettre aussi. En fait, un pays peut proposer un projet national ou récent, qui ne figure pas dans le plan de développement des pôles, mais qui a un impact. Alors, je pense que je vais laisser à Younes le soin de répondre. Younes, tu veux répondre un peu à Madame Cassie?
Oui, bonjour Krishna, merci. Ouais. Oui, bonjour Cassie. Les deux critères d'éligibilité, on a dit, c'est un projet qui est régional et un accord entre deux pays. Mais il y avait plusieurs discussion surtout à 10 et lors d'une la formation pour à Libreville, cette question a été bien posée. Le projet peut avoir national mais à caractère régional. Donc il faut le prouver. Vous m'entendez, oui, Christian? Allô?
Oui.
Tu m'entends?
C'est bon. C'est bon.
Vous m'entendez?
Oui, Younes.
Oui, vous m'entendez?
Oui, on t'entend, vas-y.
Ah, d'accord. Donc, comme j'ai dit… Donc,
oui, je vous entends.
Ok. Donc, il se peut que le projet soit national, mais à caractère régional. Donc, il faut prouver que l'extension du projet, l'impact du projet… il est à caractère régional. Donc ça, c'est lorsque ce projet sera sur la grande liste, bien sûr, il sera discuté de près pour effectivement évaluer s'il a un caractère régional, une extension régionale ou juste un caractère national. Donc il sera bien vérifié. C'est bon, est-ce que je ne sais pas, est-ce que Madame Cassie, c'est bon pour votre question?
Allô, vous êtes là, Madame Cassie? Allô? Ah, ben, je crois que… Ah, si, elle est là, ouais, je la vois. Okay. Bon, ben, allô? Vous voulez réagir, Madame Cassie? Allô?
Oh, il a posé la même question par rapport au développement des poules. Vous avez mentionné tout à l'heure que les projets électriques doivent figurer dans le plan de développement des poules. Est-ce que c'est une obligation ou juste une proposition? Je pense que Krishna, ce n'est pas une obligation. C'est oui. Juste, tu as juste dit un exemple, tu as cité juste l'exemple du marché électrique.
Alors, africain. Je crois qu'il y a Masson qui veut réagir par rapport à ça. Il dit qu'il est difficile qu'il soit régional sans être dans le pool. Allez-y.
Oui.
Masson, vous écoute.
Masonama et Kass, au fait, de par la mise en œuvre même du premier critère, qui est le critère régional, il est difficile à concevoir qu'un projet soit ait un impact régional sans être dans le plan directeur régional. Et je m'explique. Les projets nationaux qui ont des incidences régionales sont forcément dans le plan régional, puisque c'est la dimension de l'impact et l'intérêt qu'accorde la région par rapport au projet. L'étiquette nationale n'est que le fait que le projet est situé dans le pays. Et il est difficile qu'un pays, sous prétexte de dire que j'ai un projet régional à caractère d'un projet national à caractère régional, mais qui n'est pas dans le pool. C'est difficile parce que les critères qui sont fixés par le plan directeur régional couvrent toutes ces dimensions et ces détails, en fait. Je pense que c'est une hypothèse d'école. Lorsqu'on aura à appliquer les critères, on verra bien que l'aspect régional sera mis en avant aussi. Ce même aspect régional va se retrouver dans le plan directeur, en fait. Je ne sais pas, oui, si je me suis fait comprendre.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que ça rajoute un peu à la discussion par rapport au réseau de transmission électrique. Et je pense qu'il y a aussi Tahir Mustafa qui a posté en fait dans le chat une question pour dire que dans la CDAO, à ce jour, n'a pas adressé de correspondance aux États. Ben, en fait, comme je vous expliquais, Abuja, c'est la CDAO qui a dit qu'ils allaient prendre l'initiative de coordonner. Donc, je vous.
Krishna, juste par rapport à ce point du projet national à caractère régional, donc oui. Il y a peut-être des exemples, un exemple qu'on peut citer, mais c'est juste à titre idée. Donc, parfois, tu trouves un projet, un port particulier, ce n'est pas un port qui gère juste uniquement la logistique interne d'un pays, mais un port particulier, par exemple, il est situé dans un pays, mais il sert toute la région, peut-être plus que la région. Justement, c'est ça le sens, par exemple, de la question de Madame Cassie. C'est juste, je voulais citer cet exemple, juste pour pouvoir illustrer un petit peu l'exemple. Mais comme on a dit, ça va être discuté projet par projet.
Exactement. Bon, l'exemple du port, en fait, c'est un projet national. Par exemple, un port côtier peut être un projet national, mais si elle dessert tout l'arrière-pays, les pays enclavés vont bénéficier du trafic de ce port, à ce moment-là, ça devient un projet d'intérêt régional. Voilà un exemple concret. Ou alors une station hydroélectrique qui va bénéficier de toute la sous-région en termes d'exploitation de l'énergie électrique. Ça, c'est un autre projet national, mais à portée qui bénéficie toute la région, plusieurs pays. Donc, je vois, il y a Cassie, en fait, je crois qu'elle a un souci d'activer le micro. Je vais essayer de le faire d'ici pour voir si ça marche. Ah, si, mais votre micro, elle est activée, Madame Cassie. Je crois qu'il y a un souci au niveau de votre micro local, hein, parce que là, je vois que vous n'êtes pas en mute. Bon, je crois qu'elle a un souci, qu'il y a un souci au niveau de ce micro, de son micro. J'ai une question de Ben Oumar. Ben Oumar, le projet des Comores est à caractère national, mais pas régional. C'est un projet de transport maritime qui se fait relier entre elles, mais pas de souci. On veut le concours pour m'aider. Bon, en fait, comme on a dit, peut-être qu'on l'a pas mis trop d'emphase, les PIED, les petits États insulaires en développement, ont droit à un projet indépendamment des critères, donc même de ce critère. C'est-à-dire que le projet dont vous proposez pourrait être sélectionné. Enfin, vous pouvez soumettre ce projet, même si ça ne respecte pas les critères de sélection, parce que c'est très spécifique aux États insulaires. Une autre question de Chetibi, la transsaharienne qui s'étale d'Alger à Abuja est nationale, mais aussi à caractère régional, voire continental. Oui. Effectivement, il y a une partie nationale, mais une partie régionale et même continentale.
Monsieur Krishna, est-ce que vous m'entendez?
Oui, qui parle?
C'est Madame Cassie.
Ah, ben voilà, maintenant. allez-y, madame.
En fait, je voulais revenir sur le commentaire de Massa. En fait, ce que je voulais dire pour un projet national qui n'est pas dans les plans de développement, en fait, on a des projets énergétiques qui sont récents. En fait, ils sont en cours quand même d'études de faisabilité qui ne sont pas encore dans les plans de développement des poules. Donc, oui. Est-ce que ces projets peuvent faire l'objet, en fait, d'une proposition?
Je vous parlais des projets de l'Algérie, là, je suppose. Hein?
Oui, de l'Algérie, oui. Ça peut être des projets nationaux, c'est-à-dire dans une première étape, mais qui ont une portée en fait régionale. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. On peut en fait réaliser une centrale photovoltaïque dont en fait l'énergie produite peut être dédiée à l'exportation via des lignes électriques de transport régionales qui seront réalisées dans ce cadre aussi.
Oui, c'est un bon exemple. Hein. C'est comme je dis, une centrale électrique qui, avec l'énergie qui va être exportée vers la région, c'est un projet qui certainement va être qualifié. Hein. Younes?
En tout cas, je voulais juste réagir, c'est tout.
Je voulais aussi réagir par rapport à l'exemple de madame. C'est là l'intérêt. CER de coordonner ses activités au fait par rapport à ses États membres pour essayer de voir les degrés d'impact d'abord en interne et ensuite faire tout le suivi nécessaire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un vrai dialogue entre les États et leurs CER dans lesquels ils appartiennent au fait. Sinon, on va aller dans tous les sens aussi.
Oui, tout à fait. En fait, il y a ce dialogue qui est très, très critique entre les États membres et les CER pour faire cette coordination, pour s'assurer que les projets sont dans les plans directeurs et que elles contribuent en fait à l'intégration régionale. En fait, finalement, le but ultime de PIDA, c'est l'intégration régionale. Hein. Il ne faut pas oublier la finalité quand même.
Donc justement, Krishna, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est pour la région, on a 10 projets. Donc oui. Premièrement, il faut déjà penser des projets sur 4 secteurs. Donc c'est très sélectif. Et je pense qu'il faut penser à un caractère régional, voire continental, parce que si on aura par exemple 10 projets pour toute la région sur 4 secteurs, donc si on dirait un projet par secteur ou 2 projets par secteur, donc dans, sur la liste finale.
Effectivement. Okay.
Vraiment, il faut avoir cette idée, ce réflexe de région, continent, donc c'est aussi la finalité, soi-disant, du PIDA.
Le seul critère, en fait quand la Task Force va décider aussi, ils vont essayer d'avoir au moins un projet par secteur pour chaque région. Sinon, c'est à la région soit de définir de façon centrale les priorités, soit au pays, en fait, de soumettre les projets, et c'est le jeu des critères qui vont faire quels sont les projets qui vont être dans la liste prioritaire. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de contraintes pour dire il faut X% de projets dans tel secteur. C'est assez flexible, en fait, hein, parce que chaque région a ses priorités. En fait, je vois qu'il est... Il reste 10 minutes. Mamadou a posé une question. En fait, je crois que techniquement, on termine dans 10 minutes. Donc, sauf s'il y a certaines personnes qui. Bon, officiellement, on doit terminer dans 10 minutes. Mais si ça déborde un peu, ceux qui veulent rester pour discuter, moi, je suis disponible. Demba pose une question sur les présentations. En fait, toutes les présentations sont, comme je vous ai dit, sont déjà sur le site. Vous pouvez les télécharger sur le site web.
Krishna, oui. Je voulais tout à l'heure, je voulais revenir sur un point, si tu me permets.
Allez-y, vas-y.
Par rapport aux critères de genre,
oui.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas, pour les critères de genre, il ne faut pas le comprendre uniquement que pour les femmes.
Oui.
Donc, c'est aussi pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en difficulté. Je pense que ça rentre dans ce caractère, dans le genre. Par exemple, un projet qui va encourager ou bien qui va recruter les personnes à mobilité réduite, et bien sûr, et les femmes.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Ouais, parce que tout le temps, on comprend que uniquement le genre, c'est la femme.
Non, non, le genre, c'est les deux. Peut-être que... Oui, quelqu'un a une autre... Quel est l'intérêt pour vous aider?
Bonjour, je voulais abonder un peu dans le même sens que Younes, sur l'interprétation du critère genre, parce que j'ai vu que sur le tableau des critères qui a été donné au niveau de l'aspect genre, on parle de nombre de femmes concernées par le critère. Alors que nous, par exemple, pour nos projets, pour le critère genre, on va sur le nombre de femmes, on va sur le nombre de jeunes, on va sur le nombre de personnes à mobilité réduite, on va également sur le nombre de personnes qui sont vulnérables globalement. Mais là, sur le tableau des critères, sur la partie genre, il est uniquement demandé le nombre de femmes concernées par le projet. Est-ce que les autres acteurs qui sont inclus dans l'aspect genre ne sont pas pris en compte? Merci.
Non, non, mais en fait, effectivement, dans le slide, c'est les nombres de femmes, mais on sait que effectivement, dans la pratique, si vous voulez, dans le domaine de l'infrastructure, il est très connu qu'il y a la participation des femmes dans le côté supply, je dirais, l'offre. Et pour le moment, est limité. Ça, c'est connu, hein, je veux dire. Le but, c'est de rétablir l'équilibre, si vous voulez. C'est dans ce sens-là que les slides parlent de femmes. Mais vous avez raison. Quand le projet procède plus loin avec les bailleurs, par exemple, dans l'étude JAR, mais c'est une étude JAR classique, c'est-à-dire que ça inclut tout le monde. Hommes, femmes, tout. Donc, c'est une étude plus large qui regarde le JAR dans son plus large, dans sa plus large définition. Hassan, vous avez une question, Hassan Bouti?
Oui, bonjour.
Bonjour, oui.
Bonjour. Vous avez parlé lors de la première séance sur la possibilité d'aider les CERS dans le recrutement des experts pour les aider à inclure les critères dans les projets, si oui. J'ai bien entendu.
Oui.
Ma question est comment vous envisagez cette opération?
Ben,
qui financera ça? Combien d'experts? La durée et
tout bon, ce, en fait, processus. En fait, c'est, on a deux soucis. La première, c'est tout ce qui est sur le problème de confinement. Donc, je pense que tout ce qui pourra se faire, ce sera des interventions à distance. On n'aura pas le temps ni les ressources pour envoyer des experts sur place. Deuxièmement, comme je vous ai dit, nous avons un pool. Nous avons 4 experts qui sont financés par l'Union européenne dans les 4 secteurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de jours non plus. Hein. C'est à peu près une quarantaine de jours par expert qui sont disponibles. Et si nous avons des besoins très précis qui peuvent être résolus à travers des interventions ponctuelles comme ça, à ce moment-là, nous pourrons mobiliser, demander à ces experts de travailler sur ces projets. Voilà un peu la réponse.
Ok, merci.
Ouais. Sinon, vous avez d'autres questions?
Non, merci.
Il y a une question de Monsieur Chetevi. Quel est l'intérêt de proposer des projets puisqu'aucun apport de financement n'est apporté par FIDA? C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, Krishna. Donc, c'est déjà apparemment l'appui politique, technique, l'assistance. Ce lien entre les pieds et le pilotage, déjà dans les phases préparatoires, la phase de soumission jusqu'à le sommet et après donc l'adoption du PIDA, ça devient des projets régionaux et nationaux en même temps lorsque les chefs d'État les adoptent.
Effectivement, voilà. Et je vois que… Alors, en fait, peut-être qu'il reste… Une seconde. Hein? I'm still on the call. I'm still in the webinar. Hello? Yeah. Je vous disais que, comme il reste quelques minutes, je voudrais peut-être rappeler. Et moi, je vous invite, en fait, à vous enregistrer premièrement sur le site. Déjà, on va pouvoir, en fait, vous allez pouvoir télécharger, en fait, tout ce qu'on aura mis sur le site de nouveau. Deuxièmement, vous allez voir, en fait, tous les projets qui sont en train d'être soumis. Vous allez pouvoir participer aux discussions et aussi poser des questions. Donc, vous avez une fonction qui s'appelle « Nous contacter » sur le site, où vous pouvez poser une question, je dirais, privée. Donc, votre question n'est pas diffusée à tout le monde. Si c'est une question très spécifique, vous pouvez recevoir une réponse sans que ce soit diffusé à tout le monde. Voilà. Donc, ça, je pense que à ce stade, à ce moment aujourd'hui, nous avons 100 personnes qui sont connectées déjà, qui ont un login, alors que potentiellement, on devrait avoir au moins 300 entre les points focaux et les membres de la Task Force, tout ça. Donc, on est à un tiers, en fait, du taux d'enregistrement sur le site. Donc, je vous encourage fortement de vous inscrire sur ce site et ensuite de le consulter pour télécharger tout ce qu'il vous faut comme information. Toutes les présentations de toutes les formations sont déjà sur le disponible sur le site, vous pouvez télécharger et même les résumés de cette session. En fait, on a essayé d'enregistrer, si on arrive à le convertir, etc., on va le mettre un lien. Donc, vous allez pouvoir vous allez pouvoir bénéficier de toutes des questions-réponses de cette session, même des sessions précédentes. Donc, je vous invite, encourage vivement à vous inscrire. Et si vous avez des difficultés pour vous inscrire, envoyez-nous un mail. Il y a un mail, en fait, spécifique qui s'appelle, je vais le mettre en chat, c'est le pida-2@africaunion.org. Donc, ça, c'est le mail, je dirais, générique de PIDA. Vous pouvez nous envoyer un mail là-dessus et nous allons revenir vers vous. OK, donc je crois qu'il est l'heure et on est arrivé à l'heure prescrite. Je crois que certaines personnes ont d'autres engagements. Si certains d'entre vous ont d'autres questions, on peut poursuivre un moment. Mais sinon, je vous invite en fait à vous inscrire. Vous allez voir sur le site, nous avons posté aussi le calendrier de tous les autres webinars. Nous essayons de planifier certains qui sont thématiques. Donc, je vous invite à consulter, à regarder cette liste thématique. Et comme ça, vous pouvez choisir ceux qui vous intéressent et assister à ces sessions. OK? Okay. Tu voudrais dire quelques mots au niveau des membres de la région Nord, comme il y a beaucoup de personnes de la région Nord.
Mais c'est bon, en principe, tu as déjà rappelé pour s'inscrire, pour commencer à préparer des projets, soumettre des projets même, des dates, des titres, des petites idées. En attendant de développer le projet, mais c'est déjà par le commencement, le fait de commencer, ça ouvre l'appétit dans quoi.
D'accord.
Voilà.
Je suis d'accord en fait. C'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part, il faut s'inscrire, vous allez voir, vous allez pouvoir participer aux discussions et voilà comment en fait ça c'est le début. Je vous invite vivement à vous inscrire sur le site. Vous avez tous reçu en fait un mailing, vous avez reçu l'invitation, le lien et le guide aussi comment s'inscrire. Donc s'il vous plaît, inscrivez-vous dès que possible, comme ça on va aussi vous envoyer des mails aussi bien sûr, des mailings, mais c'est plus facile si vous êtes déjà sur le site, comme ça vous allez voir tout ce qui est posté là-bas.
D'accord.
OK, donc je vous remercie en fait pour votre participation. Je crois qu'on a eu une bonne session avec pas mal de personnes de l'Afrique du Nord, même du Sénégal, etc. Le Sénégal n'avait pas pu bénéficier de la formation. Donc, merci à vous tous. Et jeudi prochain, on aura la session pour les anglophones, ce jeudi, en fait. Et à partir de la semaine prochaine, sauf le 5 qui est férié à 10, comme on n'aura pas le service de l'informatique pour le lien et tout, mais à partir du 7, du jeudi 7, nous allons reprendre. Donc, nous allons afficher, nous allons vous envoyer les invitations sur les prochaines sessions thématiques ou générales. OK. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre patience, en fait, pour les 2 heures qu'on a passées ensemble. J'espère que ça a été utile. Et de toutes les façons, s'il vous reste des questions, vous pouvez toujours nous envoyer les questions. Je vous ai mis en fait le PIDA Paptou, l'email, ou bien sinon vous avez aussi mon mail, iramunka@africaunion.org, etc. Celui où je vous invite pour ces questions. vous pouvez nous écrire et poser vos questions. Ok.
Allez, merci à tous. Merci.
Allez, merci à vous. Merci, Younes.
Merci à vous aussi.
Donc, à bientôt et passez de ceux qui font le ramadan, enfin, bon, une bonne fête, bon ramadan. Et pour les autres, ben, il faut continuer à se protéger contre le virus. J'espère que ça va bientôt être fini et on pourra recommencer la vie comme normal, quoi. Ok. Ben, je vous dis au revoir et okay. À bientôt.
Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci.
Merci à vous. Merci. Au revoir. Ok. Merci. Bye.